quand je repense au web, je pense au début du web que j'ai connu, quand j'étais une jeune documentaliste. Et pour moi, c'était au départ des apports technologiques, finalement assez simples et peu nombreux, des URL, le HTML, l'interconnexion, mais l'Internet existait déjà, mais le web a donné une dimension beaucoup plus intéressante à l'Internet et a permis de le développer. Et puis après, une philosophie, celle de la non-centralisation, la philosophie du logiciel libre, etc. Et finalement, des technologies qui semblent, quand on les reconsidère, très simples et qui ont provoqué des changements énormes dans le traitement du document, par exemple, dans la circulation de l'information. Ça, c'est vraiment une bonne question. Parce que justement, c'est ni l'un ni l'autre. Comme je dis, le web, c'est une technique. C'est un ensemble de techniques qui ne vont jamais que refléter ce qu'on veut en faire et l'état d'esprit des gens qui l'utilisent, qui s'en emparent. Ce qui est compliqué avec le web, c'est qu'il y a un double langage. Il y a celui du libre, de l'ouverture, un langage très social, très, très militant, très dans le domaine du troc, de l'échange, etc. Et puis à côté, il y a des pratiques capitalistiques qui ressemblent beaucoup à ces pratiques libres, qui en ont le langage, qui en prennent, je dirais, les principes et les technologies, mais qui ont pour logique de faire du profit de façon extrêmement classique. Et c'est là qu'il faut être très très vigilant. Je pense à des techniques d'utilisation de plateformes comme Airbnb, comme Uber, qui dans les débuts, en tout cas en France, où on est assez romantique avec le web. On aime bien le penser comme un don contre don, comme quelque chose de social, etc. Je pense en tout cas dans ce qui est lié à l'économie du libre. On a cru au début que ces plateformes étaient des plateformes d'échange entre pairs. Et en réalité, ce sont des méthodes tout à fait classiques pour faire du profit, en externalisant des éléments entiers de l'économie pour simplifier finalement ce gain d'argent. Ce que j'ai compris de la post-vérité, ce qui m'intéresse dans ce concept, ce que j'ai envie de creuser, c'est la notion de la relativité. Le fait que on ne peut pas, quand on est connecté au monde et quand on a accès à des documents, à des informations, à des opinions, à des cultures, à des points de vue qui viennent du monde entier, on ne peut pas penser la vérité comme étant une vérité universelle. Du coup, ça complique terriblement notre approche des choses, de les penser de façon relative. Mais finalement, moi qui ai au départ une méthode que j'ai empruntée à l'anthropologie, ça ne me change pas tellement. Mais il faut savoir où s'arrêter. Voilà. La post-vérité, ça peut être la relativité de la vérité, mais ça ne peut pas être le mensonge. Paradoxalement, contrairement à ce qu'on aurait pu penser dans les approches utopiques de l'Internet et du web d'il y a 15-20 ans, plus on communique, plus on est relié au monde et on n'a pas forcément plus de démocratie. On a plus de contrôle social, mais le contrôle social, ce n'est pas la démocratie. Donc je crois qu'il faut être toujours aussi vigilant. Je crois qu'on est dans un monde où il faut être vigilant en permanence. Alors je pense à évidemment tous les partis d'extrême droite, enfin toutes ces choses qui se passent. Et puis, comme j'ai également tout un travail sur les migrants et les technologies de l'information utilisées par les migrants, je pense que là, on n'a pas gagné en démocratie. On n'a pas fait de pas en avant en démocratie quand on a des étrangers. Ils ne votent toujours pas dans nos pays et on a plutôt tendance à durcir les droits et à être beaucoup moins tolérant et beaucoup moins ouvert qu'on a pu être ne serait-ce qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, je pense qu'il n'y a pas de relation directe entre démocratie et Internet et web. Ouais.